Bonsoir, mesdames, messieurs, chers collègues. Je ne vais pas faire un discours d'ouverture, je ferai ce discours demain matin. Je voudrais simplement vous saluer, vous souhaiter la bienvenue pour cette table ronde qui, comme vous l'avez compris, sert d'ouverture au colloque de rentrée qui est cette année consacré à la question de recherche et innovation. Donc nous aurons ce soir un peu, je ne sais pas comment dire, tout warm-up, un peu d'échauffement par rapport aux conférences que nous aurons demain. Donc peut-être aussi la possibilité d'avoir des échanges plus informels, néanmoins évidemment nourris et de qualité. Et en vous laissant bien sûr aussi la possibilité d'intervenir, de poser des questions aux participants que M. Fievé va présenter dans un moment. Donc, comme vous le savez, le terme recherche et innovation est d'actualité. J'en dirai un peu plus demain. On le verra tout au long du colloque, mais aussi beaucoup de questions. Pour commencer, qu'est-ce que c'est une innovation? Pas si évident. Et est-ce que chaque recherche doit toujours mener à l'innovation? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de course parfois un peu effrénée à l'innovation? Est-ce que ce n'est pas aussi un danger de faire de la recherche une sorte d'utilitarisme juste pour qu'on aille de l'innovation? Parfois, on ne sait même pas ce que c'est l'innovation. Mais tout ça, je laisserai aux participants de ce soir et bien sûr aussi aux intervenants au colloque le soin de discuter tout cela. Et bien sûr aussi la question comment les sciences humaines et sociales interviennent dans tout ce débat. Donc, cette table ronde que M. Fievé va présenter et animer, va donc ouvrir le premier jalon. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, la table ronde est prévue de durer environ une heure, un peu plus, et après, il y a la possibilité d'avoir des échanges avec vous. Donc, il y aura des micros qui sont à votre disposition pour poser toutes les questions que vous les posez. Si vous aurez des réponses à toutes vos questions, ça c'est une autre question, mais vous le verrez tout à l'heure. Voilà, alors bonne table ronde et puis après, bonne discussion.
Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux de vous accompagner pour cette table ronde d'ouverture du colloque de rentrée du Collège de France, qui a pour thème, donc vous l'avez compris, recherche et innovation, quel avenir ? La question sera abordée, hein, on vient de vous le dire, dans les différentes tables rondes, différentes sessions d'échange que vous allez avoir pendant les deux jours qui vont venir. Mais on va essayer d'ouvrir un peu des pistes de réflexion avec nos quatre invités. Je vous les présente, ces quatre invités. Alors, il y a Alexia Pérouse. Voilà, signalez-vous que tout le monde vous identifie. Cofondatrice et directrice générale d'Ibionext. Ibionext, une société de gestion qui finance et accompagne les startups qui développent des innovations dans le domaine de la santé. Et on aura évidemment l'occasion d'en savoir un peu plus avec vous sur la particularité de cette société qui est un petit peu originale dans son fonctionnement, différent de beaucoup d'autres. Également avec nous Philippe Aguillon au centre, qui est économiste, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institutions, Innovation et Croissance. À l'extrémité, Claire Mathieu, chercheuse en informatique, directrice de recherche au CNRS. Et vous avez notamment participé à la conception des algorithmes de Parcoursup. On verra si en soi, c'était un travail innovant et d'innovation, en tout cas d'innovation sous contrainte et sous pression, que de créer ces algorithmes pour Parcoursup. Et Bernard Bigot, directeur général d'ITER Organisation. Alors ITER, c'est un grand projet international qui a pour but d'innover, pour le coup, en matière de production d'énergie. Et on va commencer avec vous, d'ailleurs, Bernard Bigot, par ce grand projet. On est dans la big science, comme disent les scientifiques. Quelques slides, on ne rentre pas dans une présentation très académique, mais quelques slides pour voir l'ampleur du projet. Rappelez-nous déjà, quel est le but d'ITER et comment est né ce projet international?
Le but d'ITER est d'essayer de trouver un mode de substitution à la consommation énergétique telle qu'elle se présente aujourd'hui, qui, comme vous le savez, dépend majoritairement des énergies fossiles. Le phénomène qui est mis en jeu, c'est le phénomène qui assure la production d'énergie dans les astres et le Soleil, c'est-à-dire c'est la fusion de l'hydrogène. Dans le Soleil, comme vous le savez peut-être, la masse du Soleil, c'est 300 000 fois la masse de la Terre, et au cœur du Soleil, vous avez ce qu'on appelle un plasma. Donc, c'est-à-dire de l'hydrogène à une densité d'environ 100 fois la densité du fer, portée à 15 millions de degrés. Et dans ces conditions thermodynamique particulière, eh bien, les noyaux d'hydrogène sont forcés de se rapprocher à des distances atomiques, au point qu'à un moment, les forces nucléaires de très courte portée prennent le dessus sur les forces de répulsion. Il n'est pas envisageable aisément sur Terre de rassembler plusieurs centaines de milliers de fois la masse de la Terre. Et donc, c'est dans ces conditions que 35 pays ont accepté de se réunir pour utiliser un autre mode de contrainte sur les noyaux d'hydrogène, qui est le mode donc, que l'on appelle le confinement magnétique. Ce projet est en cours de développement aujourd'hui sur un site à proximité d'Aix-en-Provence. Voilà ce site au stade de développement où il se trouve. Le cœur du dispositif sera ici. C'est ce qu'on appelle le tokamak. C'est un tore magnétique. Donc une chambre à vide d'environ 20 mètres de diamètre, 20 mètres de haut, dans lequel on fera un vide d'environ 1/1000000ème de la densité atmosphérique. On injectera 2 grammes d'hydrogène. On les portera à 150 millions de degrés. Et à ce moment-là, la réaction démarra et sera pratiquement quasi auto-entretenue.
Comment vous atteignez cette quantité d'énergie qu'il faut apporter au système ?
Par le champ magnétique. Nous allons avoir une énorme cage magnétique, donc avec des bobines supraconductrices, donc environ 70 000 ampères qui circuleront dans ces bobines et qui vont exercer effectivement donc, la pression magnétique qui est nécessaire. Voilà, c'est cela le défi. Le défi, c'est la taille et la précision. Il faut savoir que l'on doit assembler en particulier la cage magnétique, donc ces grandes bobines, il y en a 18 verticales, 6 horizontales, qui vont tisser les lignes de champ magnétique un peu comme l'on tisserait la manche d'une veste. Et il faut que l'axe magnétique de cette bobine, donc cette bobine a une dimension, comme je l'ai dit, de l'ordre de la vingtaine de mètres dans ses différentes extensions, soit positionnée avec une précision du demi-millimètre. Voilà. Donc c'est la taille et effectivement le phénomène que l'on utilise, c'est très simple, c'est par le biais du champ magnétique et par le biais de chauffage auxiliaire, d'accélérer les noyaux pour les porter à une vitesse telle que lorsqu'ils vont entrer en collision, ils vont fusionner. Et le phénomène essentiel, c'est que quand vous avez, bon ça c'est deux variétés de noyaux d'hydrogène, peu importe, lorsqu'ils entrent en collision alors qu'ils sont portés à une température de 150 millions de degrés, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 0,7 millions d'électrons-volts, eh bien vous avez production d'un noyau d'hélium qui part avec 5 fois plus d'énergie que l'énergie de la collision et un neutron 20 fois plus d'énergie. Et ce sont ces deux particules qui vont entrer en collision avec les parois, donc être brutalement freinées, transformer leur énergie cinétique en énergie thermique que l'on récupérera donc simplement avec un caloporteur traditionnel. Voilà la dimension du système, très succinctement. Hein, c'est une coupe, comme une coupe d'un fruit, comme vous le constatez. Donc là, vous avez la coupe de ce qu'on appelle la chambre à vide. Donc c'est ce grand tore d'environ 1800 m3, double paroi en acier, qui doit soutenir le vide du millionième dont je vous ai parlé, qui va être tapissé de tuiles pour collecter en particulier les neutrons, ou bien au contraire, ici, donc l'hélium, peu importe. Et cela va permettre d'avoir ici un plasma en sustentation sous l'effet de champ magnétique qui, comme vous le savez, exerce sa force à distance. Donc ici, vous avez 150 millions de degrés. Ici, vous allez avoir 200 degrés. Et ici, moins 270 degrés. Donc ce sont les bobines magnétiques qui sont ici. Voilà. Et parce que, effectivement, nous voulons avoir un rendement maximum et donc ne pas avoir de perdition thermique, tout ça a été mis dans un grand cryostat. Voilà. Ça vous donne une petite idée de ce qui se fait. Tout ça, c'est une masse qui est à peu près l'équivalent de 3,5 fois la masse de la Tour Eiffel et qu'il faut assembler avec la précision souhaitée. Alors, je pense que c'est une bonne illustration de mon point de vue de la combinaison de la recherche. Oui. Nous poussons les savoir-faire, la compréhension des phénomènes, y compris les plus intimes de la matière. Nous allons avoir, comme vous l'imaginez, par exemple, un plasma extrêmement turbulent. Nous allons avoir des phénomènes extrêmement hétérogène, donc une recherche très amont avec effectivement une innovation qu'on peut appeler technologique, c'est-à-dire pousser aux frontières de savoir comment rassembler ces différents éléments et faire fonctionner un système.
Alors, voilà. Quand est-ce que le projet a été... Alors, il a d'abord été conceptualisé. À partir de quand on a commencé à construire? Et quand est-ce qu'on imagine pouvoir commencer à faire marcher la machine?
Alors, ce projet vient d'un peu loin, peu importe. On a commencé à construire en 2007, à la suite d'un accord international qui a été signé à Paris, à l'Élysée d'ailleurs, sous l'initiative de la France, en 2007. Le temps de, puisqu'on partait de ce qu'on appelle le greenfield, hein, ouais. Voilà, le temps de faire la fameuse plateforme dont je vous montre, c'est quand même une 50 hectares à peu près là, hein, voyez. Donc malheureusement, la science a besoin de grandes dimensions et de grands moyens. C'est en 2010, grosso modo, que la construction a débuté. Notre objectif, c'est un premier plasma en 2025. Nous sommes là à la frontière entre toute la phase qui a été celle de fabrication des composants qui sont fabriqués dans le monde entier, puisque les 35 pays associés sont, je dirais, tellement convaincus que si nous réussissons, ce sera une rupture technologique majeure, une rupture stratégique dans leur capacité d'approvisionnement énergétique, ont voulu que leurs champions industriels apprennent à construire les différents composants. Donc ils fournissent les composants en nature, donc on est sur le point où tous ces pays terminent leur fabrication, on les réceptionne, on va les installer, et le premier plasma nous permettra de démontrer qu'à ce moment-là, l'ensemble des composants associés fonctionne. Mmh. Mais ce n'est pas encore un plasma producteur d'énergie, ce sera un plasma, ce qu'on appelle, d'hydrogène pur. Voilà. Et donc, après, on va monter en puissance, progressivement, donc avec des séquences d'installation de composants complémentaires et des séquences offertes aux physiciens, et la pleine puissance de fusion est prévue pour 2035. C'est-à-dire un plasma qui sera susceptible de produire 10 fois plus de chaleur que nous n'en aurons injecté dans le système. À terme, l'espoir, ce n'est pas 10, c'est 40, par exemple. Voilà. Et donc, si ce chemin, qui est un chemin qui peut apparaître long à certains, mais qui est le prix à payer pour réussir avec les exigences de qualité et de précision que nous avons, eh bien, c'est aux alentours de 2035-2040 que l'expérimentation aura été, de mon point de vue, suffisante pour que la crédibilité de cette technologie puisse être portée à la connaissance, cette fois-ci, du monde industriel.
Si ça marche, ça veut dire qu'on a un système de production d'énergie qui ne pollue plus, on a réglé le problème de l'énergie sur Terre, alors, ou ce n'est pas si miraculeux que ça?
Toute énergie a un coût. Donc ma vision est, nous avons bénéficié, l'humanité a bénéficié, pendant des milliers, voire des millions d'années, des énergies que j'appelle renouvelables, du soleil. Jusque au début du 19e siècle, on dépendait uniquement du soleil. Voilà, pour faire croître les végétaux, nourrir les animaux, se nourrir soi-même, utiliser le vent, utiliser l'hydraulique, etc. On a découvert un stockage intermédiaire de l'énergie solaire. C'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Voilà. Là, ça nous a permis de puiser dans ce stockage extraordinaire accumulé sur des centaines de millions d'années pour pouvoir effectivement donc connaître la croissance que vous avez maintenant. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'habitants. Nous avons besoin d'une quantité d'énergie, quelles que soient les économies que l'on va faire, qui est hors de proportion avec ce que seules les énergies renouvelables peuvent apporter. Elles apporteront le maximum, en particulier dans une consommation locale, mais on a besoin d'une consommation massive prédictive. Et l'avantage de cela, c'est que la matière première, qui est ni plus ni moins que de l'eau et du lithium, dans des quantités extrêmement modestes, je vais en mentionner les cas, elle est, cette matière première, suffisamment abondante pour assurer la production d'énergie de 8 milliards d'habitants pendant quelques millions, voire dizaines de millions d'années. Voilà. Nous ne produisons que de l'hélium, qui, comme vous le savez, est un gaz donc inerte du point de vue chimique, non radioactif. Juste pour vous donner une toute petite idée, une centrale qui produit aujourd'hui environ 1000 mégawatts et qui est alimentée par du pétrole ou du charbon consomme entre 8 et 10 millions de tonnes de combustible par an. La même centrale de fusion d'hydrogène consommera 350 kilos d'hydrogène. Voilà. Il y a un facteur d'amplification de l'ordre du million. Et le dernier, pourquoi tous ces pays acceptent? Parce que c'est le prix de l'innovation, évidemment, c'est un investissement. L'investissement de la phase de construction est à peu près de 20 milliards d'euros. Pourquoi tous ces pays l'acceptent? C'est parce qu'effectivement, donc une production durable, une production complémentaire des énergies renouvelables, je peux arrêter et recommencer à volonté. Et dernier élément, c'est une technologie que j'appelle intrinsèquement sûre, c'est-à-dire que si jamais je perds l'un quelconque des paramètres de fonctionnement de la machine s'arrête toute seule. Il n'y a pas d'énergie stockée. Ouais. Il y a uniquement un flux d'énergie. Voilà. Alors, donc c'est un peu un rêve qui explique pourquoi, effectivement...
Tout le monde a investi, c'est 35 pays, 20 milliards d'euros. Il reste... Alors, vous l'avez un tout petit peu employé, mais il n'y avait pas beaucoup de conditionnels dans votre discours. Ça reste dans le domaine de l'innovation, donc on n'est pas sûr que ça marche au bout du bout.
Bien sûr que non. Certains le savent, j'ai une longue carrière dans le milieu de la recherche. La recherche, c'est justement pousser plus loin les frontières du savoir. Si je savais que ça fonctionnait, il est clair que je n'ai pas besoin de développer ça. Là, je suis en train de construire une machine en offrant le maximum de possibilités d'expérimentation. Donc, bien sûr, je ne suis pas sûr que les objectifs que je viens de vous donner seront atteints. Ce que je sais, c'est qu'au vu de l'expérience accumulée depuis 60 ans, les phénomènes physiques sont suffisamment compris pour que je puisse garantir que ça fusionnera. Donc la fusion, elle est observée. Des milliers de fois, elle est observée. Le vrai sujet, c'est pour la première fois un plasma auto-entretenu, c'est-à-dire un plasma de plus de 800 mètres cubes, donc avec seulement 2 grammes de combustible à l'intérieur, porté à 150 millions de degrés. Ça, même si ça nourrit ma détermination et mon énergie,
oui, on le sent bien.
Je ne peux pas garantir que je le réussirai à coup sûr en 2035. Ouais. Si je le garantissais, on passerait à la phase supérieure immédiatement. Oui. Voilà. Il y a là la nécessité d'une exploration encore.
Mais alors, à ce stade-là, est-ce que vous laisseriez aller un pourcentage de probabilité que ça marche, au moins de ce que vous y croyez ?
Alors, il y a des risques, il y a des complexités. Le risque pour moi le plus élevé aujourd'hui, c'est celui de rassembler des composants produits dans 35 pays différents, selon cependant des standards communs, et de les assembler avec la précision extrême que je vous ai évoquée. Donc, le risque majeur aujourd'hui, c'est le risque que j'appellerais de l'ingénierie. Voilà. Donc, du point de vue scientifique, encore une fois, je suis largement confiant. Même s'il y a des phénomènes dont on sait qu'il nous faut les préciser, les approfondir, voilà, ça, je suis assez confiant. Par contre, vous le mesurez, le défi de rassembler ce composant, de le faire fonctionner et de le faire fonctionner dans des conditions économiquement viables, là, il y a un certain nombre d'incertitudes encore.
On aura l'occasion d'y revenir. Je poursuis le tour de table pour qu'on identifie un peu chacun des interlocuteurs. Et puis, pendant la discussion, ce sera intéressant d'avoir votre vision de l'innovation et de la façon dont elle s'articule avec la recherche. Claire Mathieu, à l'extrémité de la table, vous êtes chercheuse en informatique, un domaine dans lequel on innove énormément. Vous travaillez plus particulièrement sur la conception et l'analyse d'algorithmes. Alors, votre domaine de spécialité concerne d'ailleurs des solutions. On tente de trouver grâce à ces algorithmes des solutions par approximation, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous donner quelques exemples pour qu'on y voit plus clair quand on n'est pas spécialiste ?
Donc, je travaille sur les algorithmes d'approximation. C'est l'essentiel de mon travail de recherche, le centre. Il s'agit de résoudre des problèmes qui sont typiquement trop difficiles pour être résolus en temps raisonnable. Alors, au lieu d'essayer de trouver la meilleure solution possible, on se contente de chercher une solution approchée. Alors, un exemple de problème, c'est ce qu'on appelle le bin packing. Vous avez des objets, vous essayez de les mettre en boîte, et vous avez des boîtes de capacité fixée, disons 15 kg par boîte, des objets de poids variable, et vous essayez de mettre vos objets dans le moins de boîtes possible. Donc, trouver le nombre optimal de boîtes dans lequel placer vos objets de façon que chaque boîte contienne au maximum 15 kg, ça, c'est un problème difficile. Mais le faire de manière approchée, on sait très bien faire ça. Et donc, il y a un algorithme qui vous garantit que vous arrivez à 99% de l'optimum, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de problème sur lequel je travaille.
Alors, il y en a plusieurs. Donc là, il y a cette mise en boîte d'objets, de conditionnement, minimiser les temps de trajet aussi, implanter des antennes sur le territoire pour couvrir le réseau en mettant le moins d'antennes possible. Tout ça, ce sont le genre de problèmes très concrets auxquels le cerveau humain mettrait beaucoup de temps à trouver la solution optimale.
Oui, c'est cela. C'est toute une série de problèmes issus des problèmes d'optimisation. On essaye de trouver la meilleure solution possible, donc il y a certaines fonctions à optimiser. Combinatoires, ce sont des problèmes qui se définissent de façon combinatoire. C'est très lié à la recherche opérationnelle.
Alors, pendant une longue partie de votre carrière, vous avez travaillé dans recherche fondamentale, hein, à la conception de ces algorithmes. Oui. Et puis, assez récemment, on vous a demandé de réfléchir à l'algorithme de Parcoursup. Alors là, on était vraiment dans le concret. Hein, il ne s'agit plus de ranger des gens dans des boîtes, des antennes sur le territoire. Là, c'est la vie d'étudiants que vous aviez, enfin de futurs étudiants que vous aviez entre les mains. Qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement de faire ? Il existait déjà un programme. Il fallait un peu le transformer. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ?
Oui, alors, je continue à faire de la recherche fondamentale.
Oui, oui, bien sûr.
Mais,
c'était une incartade.
Durant les deux années passées, j'ai été chargée de mission auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour participer à la conception des algorithmes de Parcoursup. Donc, Parcoursup, c'est une plateforme d'affectation des candidats, des bacheliers, à des formations de l'enseignement supérieur. Et donc, les bacheliers font une liste des lieux où ils souhaiteraient aller. Les formations de l'enseignement supérieur reçoivent les dossiers, trouvent leur ordre de préférence. Et puis ensuite, il faut décider, étant donné tout ce que veulent les formations et tout ce que veulent les étudiants, qui va aller à quel endroit, faire quoi. Donc ça, c'est un problème en fait très classique en algorithmique, qui se résout très bien par la méthode des mariages stables, l'algorithme de Gale et Shapley. C'était d'ailleurs à la base de la plateforme précédente qui était utilisée par le ministère pendant les années précédentes, qui s'appelait APB. Mais il a été demandé de faire une remise à plat de la plateforme, et du coup, le ministère a décidé d'en profiter pour apporter des améliorations à tous les niveaux, et donc entre autres au niveau algorithmique. Et donc, l'une des demandes qui nous a été faite à Hugo Gimbert et moi-même, Hugo Gimbert était également chargé de mission, chargé des aspects algorithmiques avec moi, c'était de regarder comment incorporer à ce système une façon de mettre en place des taux minimums de propositions pour des étudiants titulaires de bourse. Donc, avoir un aspect, un critère, disons, social qui permette de corriger des biais possibles en permettant aux étudiants boursiers d'avoir une certaine garantie de proposition. Et donc, c'était facile. C'était facile, une fois qu'on avait toutes les données du problème, c'était facile. Ensuite, on nous a dit, alors dans ces cas-là, ce serait bien aussi d'ouvrir certaines formations. Donc, les formations, comme les licences, par exemple, étaient auparavant en priorité réservée aux candidats de l'académie. Donc les candidats qui venaient d'une autre académie, hors académie, ne pouvaient espérer avoir une place qu'une fois que tous les candidats de l'académie étaient servis. S'il restait des places, alors les candidats hors académie pouvaient candidater. Donc on nous a dit, est-ce qu'il serait possible de prévoir quelque chose pour avoir une ouverture, pour qu'on puisse dire qu'un certain pourcentage des places puissent être occupés par des candidats extérieurs. Et puis ensuite, il fallait combiner. Ça, c'était facile. Ensuite, il fallait combiner les deux.
On vous croit quand vous nous dites que c'était facile, mais là, ça ne nous paraît pas forcément immédiatement évident quand on n'est pas, dans votre domaine.
C'est très facile parce qu'en fait, on prend le classement produit par la formation et, disons, prenons le cas des étudiants boursiers. Si le recteur nous dit « je veux qu'il y ait au moins 20% des propositions qui soient faites à des étudiants boursiers », c'est très facile. Vous prenez là le classement produit par la formation et vous faites remonter les boursiers dans le classement pour garantir qu'il y ait au moins, donc 20%, au moins 2 boursiers dans les 10 premiers de la liste, au moins 4 boursiers dans les 20 premiers, au moins 6 boursiers dans les... bref, et ainsi de suite.
Oui, c'est pas si facile. Non, et donc, on ne rentre pas à ce point dans le détail du
On fait remonter au minimum et vous voyez bien qu'il y a une façon naturelle de faire et c'est la bonne.
D'accord. En faisant ça, vous aviez l'impression d'innover, pour revenir un peu au thème de cette table ronde. Est-ce que chaque algorithme est une forme d'innovation ou est-ce que c'est plus généralement le secteur de l'informatique qui est en plein boom et dans lequel on innove beaucoup aujourd'hui ?
Alors, du point de vue algorithmique à proprement parler, je dirais que ce n'était pas vraiment C'était peut-être une petite innovation, oui, mais en tout cas pas quelque chose qui puisse être publié quelque part dans une revue de recherche, parce que c'est trop facile.
Décidément.
Mais en revanche, on nous a posé des questions aussi sur la façon de gérer les internats.
Oui.
Donc vous voyez, il y a les candidats en classe préparatoire qui veulent aussi avoir l'internat. Et l'internat regarde tous les candidats qui veulent l'internat et fait un classement. Et le classement, c'est selon des critères de distance du domicile à la classe préparatoire, de revenu des parents, etc. Mmh. C'est un classement qui n'a rien à voir avec le classement de la classe préparatoire, qui est plutôt en fonction des notes. Donc, combiner ces classements pour essayer de déterminer qui devrait avoir une place à l'internat, sachant que ça n'a pas de sens de dire à un candidat « Vous êtes pris à l'internat, mais vous n'êtes pas pris à la classe préparatoire ». Donc ça introduit des dépendances entre les choix à faire. Et donc là, il y avait une question, je dirais c'était une question de recherche, qu'on ne savait pas résoudre au départ. On a dû former un groupe de travail avec une petite dizaine de chercheurs pour avoir des discussions pendant un certain temps pour arriver à trouver une solution. Donc je pense que là, c'était une innovation, un nouveau résultat de chercheurs, disons. Mais même l'autre, même si du point de vue algorithmique c'était simple, le fait d'incorporer ça dans une plateforme qui a été déployée pour toute la France, c'est quelque chose qui n'avait, à cette échelle, je crois que ça n'avait jamais été fait avant.
Et pour vous, le fait de rentrer dans cette aventure qui est beaucoup plus appliquée, ça a été, je crois, personnellement, humainement, quelque chose qui vous a plu. Vous vous êtes dit, finalement, c'est dommage qu'on ne m'ait pas proposé ce type, même si c'était facile, comme vous nous l'avez dit, c'est dommage qu'on ne m'ait pas donné ce genre de mission plus tôt.
Alors, facile du point de vue algorithmique.
Très bien, oui, je m'emballe un peu.
C'est vrai, j'ai trouvé cela très intéressant. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on met autour d'une même table des gens qui ont des profils très variés. Et il faut arriver à discuter et arriver à un consensus. Donc ça, j'ai plutôt l'habitude, quand je discute de problèmes techniques, que ce soit avec des collègues chercheurs comme moi, et on a tous une perspective commune, disons. Donc ça, c'est assez intéressant d'écouter des juristes, par exemple. Donc ça, c'était une raison. Une autre raison, c'est que quand même, ça change quelque chose d'avoir non pas un algorithme analysé avec un théorème qui est publié dans une revue, peut-être très bonne, ou alors avoir un choix à faire, un choix algorithmique à faire, qui après va avoir un impact sur des personnes réelles dans la vraie vie. Ça change quelque chose.
Oui. C'est plaisant ou ça met une certaine pression de savoir que si l'algorithme tourne mal, on va en entendre parler au journal.
Mais d'un autre côté, c'est quand même satisfaisant quand ça marche bien.
Ouais.
Ça vaut la peine.
Très bien. On aura l'occasion de reparler justement de ces passerelles qui peut-être manquent parfois entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Philippe Aguillon, vous êtes économiste, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Institutions, Innovation et Croissance. Et vos travaux portent principalement sur la théorie de la croissance et l'économie de la croissance. Et vous avez travaillé sur de nombreuses questions passionnantes auxquelles vous répondez en mettant vraiment tout un système scientifique pour y répondre, notamment l'innovation favorise-t-elle la croissance ? Intuitivement, on se dit oui, certainement qu'une société qui innove croît davantage, mais encore faut-il le démontrer et puis voir différents cas de figure. Comment on répond à une question comme celle-ci ?
Bon, il y a une réponse... empirique, il y a des données. Alors c'est vrai que la réponse empirique est venue très récemment. Il y a eu des travaux faits par d'autres que moi sur données historiques, notamment américaines ou d'autres. On peut remonter jusqu'au début du XIXe siècle en termes les brevets. On a des données sur les brevets qui sont produits dans différents endroits, et notamment données américaines. Et on voit que les endroits où il y a eu plus de production de brevets sont des endroits où la croissance a été plus forte, et notamment la croissance de la productivité. Donc, je veux dire, et on sait que... Voilà. Donc, ça, donc, il y a déjà cette évidence-là qui est une évidence, je dirais, empirique. Et puis, on sait que quand même, il y a l'histoire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a pratiquement pas de croissance. Alors, il y a eu des inventions très importantes. Mais disons que la croissance mesurée, peut-être qu'elle a été mal mesurée, la personne qui a joué un rôle très important pour mesurer la croissance dans différents pays au cours de l'histoire, c'est Madison. Et Madison vous dit que jusqu'en 1820... n'y a pratiquement pas de croissance, quoi, mondialement. Et que le décollage a lieu en 1820. Et le décollage est lié à l'apparition et la diffusion de la machine à vapeur et son application à toutes sortes de choses. Et donc la question, c'est de voir qu'est-ce qui a permis, d'abord, pourquoi ça s'est passé en 1820, pourquoi ça s'est passé en Europe et pas en Chine, par exemple, dans d'autres pays. La Chine est un pays où il y avait eu beaucoup d'inventeurs, et pourtant, ce n'est pas là qu'a eu lieu le décollage industriel. Donc, c'est des questions intéressantes. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a, par exemple, des historiens comme Joël Mokyr, qui ont beaucoup réfléchi, mais d'autres également, pourquoi ça s'est passé en Europe, à ce moment-là, quel est l'ensemble des conditions qui ont été réunies pour qu'il puisse y avoir vraiment une croissance par l'innovation, ouais, et un vrai décollage de la croissance.
Et vous avez des éléments de réponse à nous donner, on imagine que...
qui sont un peu la base de des théories sur lesquelles je travaille, c'est que d'abord, au XVIIIe siècle notamment, et avant, il y a eu ce qu'on appelle la openness revolution, la révolution de l'ouverture, c'est-à-dire que, en particulier, les services postaux étaient meilleurs marchés, devenaient moins chers. Il y a eu les coûts d'imprimerie qui ont décru beaucoup, et ce qui fait qu'on a pu publier beaucoup de journaux, et on a vu l'apparition des manuels et des encyclopédies, et c'est très important parce que du coup les gens ont pu échanger des idées et on a pu codifier le savoir, parce que si on codifie pas le savoir, on doit réinventer la roue à chaque fois, et donc c'est comme ça que ça a favorisé le développement de sociétés et clubs scientifiques pour faire avancer la protection des échanges d'idées. Donc la première chose, ça a été la société, la république des idées qui s'est développée grâce aux technologies de l'imprimerie qui était venue avant, évidemment. Donc ça, ça vient avant 1820, c'est une condition nécessaire. La deuxième, c'est que avec la révolution, la Glorious Revolution en Angleterre, puis nous, la Révolution française, on a mis en place un système de protection des droits de propriété. On pouvait protéger la propriété des innovations. Donc ça, c'est très important. Et donc, il y a tout l'aspect propriété, d'accord. Et puis, ces deux choses-là, ensemble, ont été les éléments très importants. Pourquoi en Europe? Eh bien, l'explication qu'avance Mokyr, c'est qu'il dit, voilà, en Chine, dès que quelqu'un devenait potentiellement un innovateur, l'empereur empêchait parce qu'il avait peur que ça menace son pouvoir. Mais en France, en France ou en Angleterre ou dans d'autres pays européens, si je persécute un scientifique ou que je le brime, je l'empêche de... Eh bien, il va dans le pays d'à côté. Et c'est le pays d'à côté qui est doté. Donc, Mokyr a beaucoup insisté sur l'idée que la concurrence entre pays en Europe, qu'il n'y avait pas en Chine, l'équivalent, a été aussi un élément qui a pu certainement favoriser cette éclosion.
Alors justement, concurrence et innovation, là aussi, vous avez travaillé sur la question. La concurrence favorise-t-elle l'innovation? Là, dans l'exemple que vous venez de nous donner, il semblerait que oui. Voilà. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que la concurrence est toujours bénéfique à l'innovation?
Alors, il y a deux effets. Il y a des effets contradictoires, parce que comme en économie, c'est toujours des effets.
Et oui, c'est ça, c'est toujours complexe.
Claire, on est concurrents, et donc moi, je vais essayer de faire mieux que Claire, et donc je vais innover pour pouvoir faire mieux que Claire. Donc, c'est l'effet escape competition. Mm-hmm. J'échappe à la concurrence en innovant. Ouais. Mais il peut y avoir aussi un effet de découragement. C'est-à-dire que si je suis en arrière, que j'ai une concurrence extrême, mm-hmm, je pense que quoi qu'il arrive, les gains de mon innovation vont être dissipés par la concurrence. Donc, mm-hmm, il y a un effet de découragement. Ouais. Mais en général, l'effet... Quand on est une firme à la frontière, une firme qui fait très bien, qui est performante, en général, l'effet escape domine l'effet de découragement. Mmh. Voilà. La contradiction, c'est que l'innovation aussi... l'innovation nécessite la rente de l'innovation, mais on a vu se développer, dans la période récente aux États-Unis, une montée des rentes et une baisse de la croissance. C'est-à-dire qu'il y a des firmes qui sont devenues hégémoniques parce qu'il n'y a pas eu de garde-fous. On n'a pas régulé, on n'a pas, avec une politique de concurrence inappropriée, notamment la révolution des TIC, la révolution des technologies de l'information et de communication, a permis à certaines entreprises, les GAFAM en particulier, de devenir hégémoniques. Donc, à court terme, c'était bon pour la croissance, mais à long terme, ça a plombé la croissance aux États-Unis. Donc, il y a toujours le problème qu'il faut faire, il faut réguler le système.
Il faut réguler le système. Alors, comment on régule sans empêcher d'innover? Ça aussi, c'est une question à laquelle vous avez réfléchi.
Donc, ça, c'est la question, par exemple, sur la fiscalité. On sait que, par exemple, pour empêcher des grosses entreprises... Parce que typiquement, le problème, c'est que les innovateurs d'hier peuvent devenir des intérêts acquis aujourd'hui qui peuvent empêcher l'arrivée de nouveaux innovateurs. Ils peuvent utiliser les richesses qu'ils ont accumulées pour empêcher de nouveau d'arriver. Mmh. Donc, comment vous traitez ça? Bon, peut-être la fiscalité peut faire une partie, mais je ne crois pas qu'on résout tout par la fiscalité. En ce cas, je me distingue d'autres économistes français. Et je pense que la concurrence, la politique de concurrence, est très importante. Par exemple, réguler les fusions-acquisitions aux États-Unis, c'est crucial. Je pense que permettre les fusions-acquisitions sans limite, c'est très dangereux. Il y a aussi les règles de financement des campagnes politiques. Je pense qu'il y a toute une série de mesures qu'on peut faire pour faire en sorte que les intérêts acquis, que les, ne domine pas toute l'économie et n'empêche pas l'arrivée de nouveaux innovateurs. Voilà. Il y a beaucoup, aux États-Unis, le lobbying est quelque chose d'énorme, quoi, et qui n'est pas beaucoup régulé. Voilà.
Autre exemple de question à laquelle... Il y en a beaucoup d'autres. J'invite ceux qui voudront en savoir plus à aller voir la vidéo de votre présentation, de votre conférence inaugurale ici au Collège de France, où si on vous trouve énergique là, on vous trouvera encore plus énergique sur cette vidéo.
Là, j'ai réussi à rester assis.
Là, vous êtes assis, donc vous arrivez à vous contenir un peu, mais dans cette vidéo, c'est un vrai show. Et on apprend énormément de choses, et notamment les liens qu'il peut y avoir entre l'innovation et la mobilité sociale. Alors, il faut peut-être rappeler ce que c'est que la mobilité sociale pour qu'on
vous
suive.
D'abord, si vous me dites comment je mesure l'inégalité, c'est un gros problème parce que je vais vous dire de quelle inégalité vous parlez. Est-ce que vous parlez de l'inégalité au sens large, c'est-à-dire de l'écart global à l'égalité parfaite de la société? On a une mesure qui s'appelle Gini, il y a d'autres mesures de, disons, l'inégalité globale, d'accord? Et il y a d'autres mesures, c'est par exemple la part des revenus du 1% qui gagne le plus ou des 1% les plus riches. Le top 1%, le top 0,1%, ça c'est une autre mesure. Et puis il y a une autre mesure qui est plus dynamique, c'est de savoir d'inégalité, qui est par exemple le revenu des enfants très corrélé avec le revenu des parents. Ça veut dire qu'il y a très peu de mobilité sociale. Mmh. C'est une mesure plus dynamique d'inégalité.
C'est-à-dire si je reproduis, si j'ai le même revenu que les générations précédentes.
Est-ce que j'ai le même revenu que mes parents ou est-ce que j'ai le même revenu aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Ouais. C'est une autre mesure de mobilité. Ouais, et elles ne sont pas équivalentes. Alors on sait qu'en général, les pays ou les régions où il y a plus de mobilité sociale tendent à avoir moins d'inégalités globales. Mais la relation avec le top 1% est plus complexe qu'on ne pense. Par exemple, aux États-Unis, en Californie et en Connecticut, sont les États américains où vous avez vous avez plus de mobilité sociale que dans les États du Sud, les États ex-droits civiques, etc. Mais pourtant, la part du top 1% est plus importante au Connecticut et en Californie qu'elle l'est en Alabama ou au Mississippi. Donc là, c'est une relation plus complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, elle a un effet très intéressant. L'innovation augmente la part du top 1% parce que M. Skype, il est devenu très riche. Avant, il n'y avait que Wallenberg en Suède. M. Skype devient aussi top 0,1% parce qu'il a fait une innovation. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme l'innovation implique la destruction créatrice et le remplacement d'anciennes activités par des nouvelles, l'innovation, surtout par les nouveaux, va de pair avec la mobilité sociale. Donc l'innovation, elle a ce double effet. Elle augmente la part du top 1%, mais elle va de pair avec la mobilité sociale. Et donc, l'effet de l'innovation sur l'inégalité globale, est, en fait, n'est pas déterminé. On ne voit pas vraiment d'effet. Alors qu'il y a d'autres sources de top 1%, comme par exemple la propriété de terre ou la rente foncière, eh bien, qui augmentent la part du top 1%, qui réduisent la mobilité sociale et qui augmentent l'inégalité globale. Et je dis toujours que Steve Jobs, ce n'est pas la même chose que Carlos Slim. Carlos Slim, c'est Monsieur Rente. Ça, je veux lutter contre. L'innovation, il faut faire attention parce qu'elle me donne de la croissance et elle a cet effet moins évident sur l'inégalité, voilà, qui est différent. C'est pour ça que quand on dit la féodalité, c'est comme aujourd'hui, non. L'époque féodale, c'était une époque où l'inégalité ne reposait pas sur l'innovation. C'est très différent d'un système où une partie de l'inégalité repose sur l'innovation. Voilà. Alors, donc, il faut distinguer les deux.
On aura l'occasion d'en discuter certainement lors de la session de questions avec la salle.
Réponse à d'autres.
On termine... Pardon. On termine avec Alexia Pérouse. Alors, on reste un peu dans le financement, justement, de l'innovation avec vous, mais avec des cas beaucoup plus pratiques et concrets. Vous êtes cofondatrice et directrice générale d'Ibionext. Précisez-nous ce que fait Ibionext exactement. Ce n'est pas vraiment un fonds d'investissement classique. Ce n'est pas non plus complètement un incubateur de start-up. On est un peu entre les deux.
Oui, c'est un modèle très opérationnel et c'était pour répondre vraiment à une problématique du financement de la croissance, en fait, de nos innovations de rupture. Parce qu'en France et en Europe, on sait très bien créer, on sait sortir les innovations des laboratoires, on sait démarrer les premières phases et malheureusement, on se rend compte que 10 ans après, aujourd'hui, on n'a pas de leader qui soit resté en France et en Europe. Ce n'est pas qu'un problème français, c'est parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas accompagné jusqu'au bout. Donc nos sociétés vont partir, alors soit elles vont se faire racheter par des grands groupes, pas forcément valorisés, donc finalement, on n'a pas de retour. Et donc, il n'y a pas de cercle vertueux financier, puisque si nous, les fonds de financement, on n'a pas de retour, eh ben, on ne va pas pouvoir refaire de fonds et on ne va pas pouvoir refaire de start-up. Donc, c'est très important d'arriver à valoriser nos sociétés. Et, ou alors, on fait des introductions en bourse. Et là, c'est aussi un autre problème. Ce sont des sociétés qui sont malmenées parce que c'est de la santé, qu'il n'y a pas d'analyste scientifique sur Euronext, d'une façon globale. Et donc, nos sociétés sont mal valorisées. Je vais prendre même un chiffre sur le début de l'année 2019. Je le lisais ce matin. C'est que dans les tops donc de nos sociétés en santé, on a seulement 5 sociétés publiques qui sont vers la hausse, et puis tout le reste est négatif. Donc on sent bien, alors qu'elles ont des assets, elles ne sont même pas valorisées à la hauteur de leur pipeline, ni même de leur chiffre d'affaires et du cash qu'elles ont qu'elles ont dans leur banque. Donc il y a un vrai souci. Donc nous, on s'est dit, il faut arrêter. Moi, j'ai fait du financement classique pendant 15 ans. Et juste pour dire en deux mots comment ça se passe, c'est on lève un fonds, on regarde le deal flow. Si on est bon investisseur, on choisit les meilleures sociétés. Mais l'innovation de rupture, elle n'est pas forcément là, hein, ceci dit, au moment où on veut investir le fonds. Et puis, on investit sur une quinzaine de lignes et c'est devenu une industrie assez statistique, finalement.
C'est-à-dire qu'on prend une quinzaine de start-up. Dans le lot, il y en a 3 ou 4 qui s'effondrent, voilà. Il y en a d'autres qui explosent et je retourne un petit peu d'investissement à l'arrivée.
Et donc, finalement, la moyenne européenne, de ces fonds, ça varie entre 1,1 et 1,5 de retour sur investissement, ce qui est largement insuffisant par rapport au risque qui est pris sur la durée de vie des fonds qui sont de 10 ans, etc. Donc, ce n'est pas très vertueux, ce n'est pas optimisé.
Alors, vous, comment vous faites, votre société?
Voilà, donc l'idée, c'est de partir d'une page blanche et de se dire, revisitons le modèle comme si on n'avait aucune contrainte. Bon, on s'est donné ce luxe-là, c'est bien agréable. Et on va revenir sur le modèle et se dire, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'innovation de rupture. Non, je ne vais pas parler d'innovation incrémentale, etc. On veut être sur ce qui nous disrupte. Parce que là, on sait qu'on va trouver un marché et que même si on dérange, etc., parce qu'en fait, il faut déranger, finalement, on va pouvoir implanter notre solution médicale. Moi, je suis dans le secteur santé.
On est dans le secteur des biotechnologies et médicales.
Biotechnologie, medtech et santé digitale maintenant. Donc, vraiment...
Un exemple, pour qu'on suive bien, que ce soit concret, un exemple d'innovation de rupture dans votre domaine de la santé et du médical, c'est quoi?
J'en ai beaucoup, je suis obligée de choisir.
Un ou deux,
Ça peut être une molécule thérapeutique qui arrête la neurodégénérescence, non pas seulement les symptômes, mais arrêter véritablement la dégénérescence. Quand on parle d'innovation de rupture, je suis forcément sur des pathologies qui sont chroniques, qui n'ont pas été résolues, donc c'est toutes celles qui s'adressent finalement aux maladies du vieillissement, donc forcément le cerveau est dedans, mais j'ai aussi des pathologies chroniques cardiaques. Aujourd'hui, par exemple, on s'est implanté une valve aortique transcathétère. On a une trentaine de start-up qui arrivent avec la valve mitrale. Moi, je vais me poser la question. Je ne vais pas aller sur la valve mitrale, elle est en train d'arriver, ce n'est pas le souci. Par contre, je vais poser la question au chirurgien cardiologue de se dire, mais quand vous fermez le patient, est-ce que vous êtes content? Et lui, il va dire, il y a quand même une valve qui s'appelle la valve oubliée. Je veux dire, c'est laquelle? C'est la valve tricuspide. On va peut-être commencer à travailler la valve tricuspide transcathétère. Donc ça, c'est la prochaine génération. On sait qu'ils vont venir. Donc on essaie toujours de se dire, qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui? Voilà, c'est rendre la vision à des patients aveugles, rendre une certaine autonomie en tout cas, c'est empêcher que le patient qui sort d'un infarctus cardiaque de l'hôpital après un infarctus cardiaque ne sorte et pendant 3 mois se dise est-ce que je vais y retourner ou pas, il a un tiers de risque d'y retourner. Voilà, on anticipe tout ça.
Alors ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment ce travail d'enquête finalement sur le terrain, c'est-à-dire que vous et votre équipe, vous devez savoir où en est la recherche, où sont les besoins, et il y a aussi une dimension un peu chasseur de tête. C'est-à-dire que vous voulez aller, vous, dénicher le chercheur qui n'est pas encore en vue, mais qui est en train d'innover dans son labo, et lui proposer, et si on vous accompagnait pour faire une start-up.
On va vraiment travailler, mais de temps en temps, ça peut prendre 2, 3 ans, 4 ans, c'est pas les start-up toutes créées qui nous intéressent, c'est s'intéresser à l'innovation et amener tout notre savoir-faire, justement, sur l'industrialisation, le market access, le réglementaire, le clinique. Tout ça, le chercheur ne peut pas le connaître. Donc, malheureusement, lorsque les innovations sortent du labo, la plupart du temps, on perd 2, 3 ans et l'argent n'est pas bien utilisé. Donc, l'idée, c'est de se dire, travaillons ensemble, main dans la main, c'est pas les chercheurs d'un côté, les entrepreneurs et les investisseurs. Aujourd'hui, on a décloisonné tout ça dans notre modèle, de se dire créons les choses ensemble. Et soit ça se fera parce qu'au bout de 2-3 ans, on dira il y a vraiment matière à créer une start-up, soit ça se fera pas et au pire, on aura perdu du temps, mais c'est pas grave, on aura vécu des belles aventures humaines et puis souvent des idées en amènent d'autres, donc c'est pas parce qu'on n'a pas fait une aventure qu'on n'en fera pas une autre ensemble. Ouais. Donc on va vraiment travailler avec les chercheurs entre 12 à 36 mois en général. Et nous, on travaille sur le business plan et d'identifier les expertises qu'il faut. À partir d'un moment donné, quand même, il va falloir créer, parce que lorsqu'on veut passer les essais cliniques, il va falloir investir plusieurs millions d'euros. Donc là, en effet, il faut créer la société, là, il faut financer. Mais auparavant, on aura vraiment checké tous les points de faiblesse du business plan et on aura étoffé l'équipe autour du chercheur. Donc ça, c'est très important. Donc on aura trouvé en effet un manager expérimenté ou pas. Et puis surtout, c'est que lorsqu'on décide de créer, Et bien, en fait, on a regroupé les sociétés autour du fonds. Donc, on a une sorte d'écosystème. Voilà, il y a à peu près 3500 mètres carrés.
Aujourd'hui, physiquement, elles sont regroupées dans le même bâtiment.
Les sociétés sont autour du fonds. Quand je vous dis, l'investisseur, il n'est pas dans le 8e, il ne vient pas au conseil d'administration tous les 3 mois pour dire est-ce que ça se passe bien ou pas. C'est, on est véritablement, finalement, des cofondateurs, co-entrepreneurs avec nos sociétés. Mmh. Et bon, après, chacun son travail. Hein, donc, la société se développe, mais on est accessible, on est sur les mêmes, dans le même environnement. Et ça permet de véritablement suivre la société au fur et à mesure et d'avoir des conseils d'administration, puisque la société est créée à ce moment-là, qui soit vraiment productif. Et c'est intéressant parce que ce qu'on a aussi fait, c'est de se dire, finalement, une fois qu'on appuie sur le bouton, il faut aller très vite, parce que la compétition, elle est là. On n'est pas jamais les seuls à avoir une très bonne idée. Donc, on se dit, il faut qu'on accélère le cycle de financement aussi. Ça, c'est important. Donc, on a mis à disposition, enfin, on a monté une équipe qui est à nos côtés, qu'on a appelée Passage Innovation. On a une quinzaine d'experts qui vont tout couvrir, la propriété intellectuelle, les affaires légales, les ressources humaines, le budget, etc. Ce qui fait que, quand on recrute un PDG sur une de nos innovations, on lui dit, ben voilà, tu as 24 mois pour aller chez le patient, ou 36 mois, enfin ça dépend après si c'est un prototype ou un médicament, ou aller en phase clinique, etc. Et lui, il est vraiment focalisé en 80% de son temps à ça. Et je peux vous dire que sur les 2-3 premières années, un PDG qui doit tout faire, mais évidemment que cette première phase n'est pas optimale. Et surtout après, et là j'insiste dessus, c'est qu'après, au lieu de lui dire ben, « tu vas chercher de l'argent tous les 2 ans, 3 ans, etc. auprès des fonds classiques », nous on dit « non seulement on finance ta première partie, et on va se relever et on va financer, on va mettre encore le double ou le triple sur la phase de croissance, qui est notre gros souci ». Et c'est là où on perd les startups en général. Donc, ça lui donne une stabilité et une vision, et c'est aussi plus facile pour lui d'attirer des investissements extérieurs. Donc, le concept de se dire on est co-entrepreneur, financeur de la création à la croissance, c'est quelque chose qui n'existait pas. On le fait sur très peu de sociétés. Ce que je ne veux pas, moi, c'est un fonds de 10 millions d'euros sur 15 lignes. Je veux un fonds de 6 sociétés avec 25 millions d'euros. Donc, on assume la prise de risque et l'ambition de nos sociétés. Mais c'est la seule manière dont on aura des licornes, ces fameuses licornes là dont on dit qu'il faut avoir des sociétés qui valent 1 milliard. Et là, je fais un petit... j'étais assez contente d'entendre le 26 septembre l'annonce de notre président Emmanuel Macron qui disait qu'il y a 5 milliards qui vont être fléchés sur la French Tech. Il faut mobiliser l'argent des assureurs et des banques, etc. Donc forcément, je suis forcément touchée par ça en me disant 5 milliards. Bon, 5 milliards, hein, c'est la moitié de ce qu'a fait la Grande-Bretagne en 6 mois, et c'est 130 milliards aux États-Unis. Mais j'étais contente. Par contre, ce qui était un petit peu embêtant derrière, c'est que je me suis dit, ils ont fait le Next 40, qui est le CAC 40 des startups. Eh bien, il n'y avait aucune startup en santé. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, elles n'ont pas de chiffre d'affaires, mais c'est normal, mais c'est notre science, c'est notre savoir-faire. Et donc là, on a encore besoin de flécher et de dire, attention, la croissance des startups en santé, on a un potentiel énorme, il y a des mouvements, mais on n'en est pas encore là.
Une dernière question, et puis ensuite, après, on va discuter. Je remarque, je ne sais pas si c'est statistique, si y a une étude scientifique à faire, mais que ceux qui parlent argent et économie ont un débit de parole bien plus rapide que ceux qui parlent recherche. Je ne sais pas du tout à quoi ça tient, mais j'observe ça de façon empirique. Le temps, c'est de l'argent. On n'a pas de temps à perdre. Les chercheurs que vous accompagnez, à quel point sont-ils libres une fois que vous les avez mis dans votre incubateur de start-up où ils sont surprotégés, mais ils sont aussi très encadrés? À quel point vous leur laissez la liberté de chercher?
Ils sont toujours libres, parce que je pense que si on enferme un chercheur, c'est fini. Ils sont libres, ils sont proches, parce que pour nous, c'est important aussi. Moi, je dis qu'il y a souvent des serial entrepreneurs, et en fait, c'est la même chose sur les serial scientists. C'est-à-dire que quand ils ont des idées, ils n'arrêtent pas. Et donc, à un moment donné, ce qui ne va pas être évident, c'est quand on crée la start-up, il va falloir en effet rester sur une stratégie produit pour arriver chez le patient. Encore une fois, ce qui nous anime, c'est le patient. Et en même temps, il faut lui laisser sa créativité. Alors, il peut continuer. De toute façon, en général, ils gardent un lien dans leur laboratoire. Hein. Mmh. Les chercheurs restent toujours dans leur laboratoire, et puis en général, ils passent 30%. Enfin, il n'y a pas de règle dédiée à la société sur vraiment la ligne de stratégie qui a été choisie par la société. Mais ils sont libres, et heureusement, parce que moi, ce que j'ai vu vraiment au cours des dernières années, c'est que l'innovation de rupture, encore une fois, amène l'innovation de rupture. C'est parce qu'on a des sauts d'étape que ça permet de faire les prochaines. Donc, il faut leur laisser cette liberté, et on a beaucoup de fondateurs scientifiques avec qui on a créé plusieurs sociétés différentes.
Philippe Aguillon, une réaction justement sur ce cas très concret de financement de start-up. Je vous ai vu, alors, aussi bien Philippe Aguillon que Bernard Bigot acquiescer sur les premiers mots d'Alexia Pérouse quand elle disait « En France, on n'accompagne pas les start-up et trop vite, finalement, on les laisse partir ». Vous êtes d'accord sur le besoin de financer autrement ces start-up ?
Il y a des choses, enfin, différents aspects. Donc, de toute façon, nous, on est très en dessous de la frontière d'efficience sur beaucoup de choses. On sous-finance la recherche fondamentale, il faut quand même le dire. Hein, donc ça, c'est quand même... et effectivement, également, le passage de la recherche fondamentale à la... Et surtout pour ce qu'on appelle les tough technologies ou les innovations de rupture, là aussi, on n'a pas encore l'appareillage qu'il faut. Quoi. Ouais. Il y a quand même le merveilleux modèle de la DARPA aux États-Unis, ouais. Defense Advanced Research Program Agency, bon, qui a été créé pendant la guerre froide, et qui est exactement pour traiter le genre de problème que vous dites, c'est-à-dire les objectifs. On sait ce qu'on veut, on veut mettre un homme dans l'espace dans un an, on a des objectifs très bien définis, mais il y a un problème de... La recherche fondamentale a été faite, mais le passage au commercial... C'est ce qui est entre la recherche fondamentale et le passage au commercial, c'est une espèce de courbe en S et on n'arrive pas à monter. Parce qu'il faut coordonner des moyens importants qu'on n'arrive pas à coordonner, il y a des problèmes de financement. Et là, le modèle DARPA est un modèle très intéressant parce qu'il combine le fait que c'est quand même piloté par le ministère de la Défense ou le ministère de l'Énergie, etc. C'est des fonds qui viennent d'eux, mais en laissant de l'initiative. C'est-à-dire on crée des groupes qui sont gérés, on dit on met en charge un universitaire, un industriel pendant 3 ans, l'objectif est bien défini et après on change. Et cette personne veut évidemment montrer qu'elle est capable de faire quelque chose parce que pour sa réputation c'est formidable. Donc c'est un modèle très intéressant parce qu'il combine comme une volonté d'en haut et donc un top-down avec du bottom-up. Et, je crois que c'est un modèle qu'il faut reprendre. Les Allemands sont en train de créer une DARPA, d'autres pays sont en train. Nous, si avec Thierry, on va changer la France et on va arriver à créer une DARPA, hein. Thierry, on est en travail là-dessus, j'espère. Peut-être que les Franco et les Franco-Allemands, on peut créer une DARPA franco-allemande, ce qui serait, et après l'étendre, ce qui serait quelque chose de formidable. Mais je crois qu'il y a des mécanismes, et ça donne des choses formidables. Le laser, l'Internet, beaucoup de choses aux États-Unis n'auraient pas existé, en tout cas pas de la même manière, sans s'il y avait eu cette initiative DARPA. Et vous vous inscrivez tout à fait dans cette logique du DARPA. Donc je crois que... Mais nous, il y a tellement de choses qu'on doit faire, puisque même nous, le problème de Et alors, évidemment, les mécènes, ça sert, parce qu'on a besoin de l'État et des mécènes. Oui. Et le problème, malheureusement, en France, je veux le dire, les uns et les autres sont passés par les grandes écoles. Les grandes écoles, c'est quelque chose de très bien. Mais il y en a souvent qui ne sont pas passés par l'université. Et ils oublient le rôle de l'université. Vous voyez, donc c'est important. Oui. Aux États-Unis, il y a eu, par exemple, le Howard Hughes Medical Institute, qui est un truc formidable, où on finance des trucs très risqués, on met beaucoup d'argent pour faire des découvertes très risquées. C'est quelque chose chez nous qu'on ne fait pas du tout. Donc vous commencez à faire. Mais alors, vous voyez, on a beaucoup de... Je suis désolé, j'ai trop parlé, mais vous voyez que recherche fondamentale, on peut faire beaucoup mieux, et innovation de rupture, chez nous, on peut faire beaucoup mieux.
Allez, une courte réaction à Alexia Pérouse, puis ensuite Bernard Bigot.
Je vais dire un truc sur la DARPA, c'est vraiment intéressant, parce que sur une de nos sociétés, la DARPA a, avant même qu'on crée la société, a repéré une publication scientifique d'une de nos équipes, et en effet est venue, mis un million de dollars pour avoir le prototype, donc là après on a dit ça suffit, puis on a créé la société en France. Mais il faut résister, parce qu'en effet ils sont redoutables.
Et les Allemands viennent d'en créer une.
Et on n'aurait pas créé la société, elle serait partie, voilà, donc il faut résister à ça.
Bernard Bigot, alors je rappelle que là, aujourd'hui, vous êtes sur ITER Organisation, mais avant, vous avez été dans la recherche fondamentale à l'université, vous avez aussi créé l'École normale de Lyon, donc vous avez un point de vue assez général sur la façon dont la recherche se fait, l'enseignement.
Une expérience peut-être la plus adéquate par rapport à la création de valeur à partir de la recherche, c'est peut-être l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai dirigé le CEA, qui a cette culture. Juste, je voudrais apporter un point. Je partage votre diagnostic et la nécessité, effectivement, de réunir les gens le plus tôt possible.
Je vous rapproche un peu le micro.
L'expérience que j'ai aujourd'hui est... Beaucoup de jeunes créateurs d'entreprises ou d'innovations m'approchent à cet égard, c'est la difficulté de la stabilité, je dirais, de l'environnement réglementaire. Et en particulier, il y a une innovation, après le brevet, on est dans un système français où il y a l'université, il y a les grands organismes, etc. Dès que les choses croissent, là, les choses deviennent compliquées, chacun revendique, voudrait avoir les revenus avant même d'avoir pris les risques. Il faut qu'on ait un esprit, je dirais, d'ouverture, de liberté. Voilà. C'est allez-y, foncez, et on verra bien. Personnellement, je me souviens d'avoir une expérience de quelqu'un qui était venu me voir. C'était effectivement pour mettre au point des modèles nouveaux de souris et de rats pour faire des tests. Voilà. Il avait été voir autant d'investisseurs qu'on peut en imaginer. Il avait été voir ses différents responsables, etc. Tout le monde lui avait dit oui, c'est intéressant, mais. Donc, moi, ce que j'avais proposé, c'est voilà. je vous donne une carte blanche, vous avez 2 ans, c'est moi qui vais financer en tant que responsable d'un établissement, je ne demande même pas le retour des revenus. Si ça marche, je pense que vous aurez, la générosité de revenir vers moi. Et ça réussit. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est ça. C'est que dans ce pays, comme d'ailleurs aux États-Unis, comme d'ailleurs dans d'autres pays, lorsqu'il y a quelqu'un qui est porteur d'une innovation, on lui facilite la vie, on ne mette pas des bâtons de toute nature et de toute complexité. Aujourd'hui, un banquier dit d'accord, mais il faut que vous en trouviez 3 autres qui viennent avec vous pour que je diminue risque. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Et je vois énormément de jeunes qui sont porteurs d'innovation et de création. Et puis, ils ont développé les choses, ils ont donné la crédibilité et ils sont inspirés parce que là où ils viennent mendier, je dirais, 500 000 euros, on leur dit, monsieur, voilà, c'est 1 million tout de suite et si vous en avez 5, besoin demain. C'est cet état d'esprit qu'il faut avoir, je pense, qui est essentiel si on veut, je dirais, valoriser l'investissement intellectuel, l'investissement humain, l'investissement financier. La recherche, c'est, évidemment, vous m'avez posé la question, est-ce qu'on est sûr d'arriver ? Non, surtout pas. On n'est pas sûr, c'est pour ça qu'il faut lancer des pistes et donner la liberté de création la plus grande. Mais lorsque l'on a identifié ce que j'appelle donc évidemment une découverte porteuse d'innovation potentielle, alors là, il faut concentrer les moyens, faciliter l'environnement et puis donner la meilleure chance à ceux qui en sont porteurs.
Alors,
après,
j'entends...
il y aura des retours, bien sûr, qu'il faut réguler.
Éviter le saupoudrage. Le problème des financements
européens... Allumez votre micro.
C'était qu'on saupoudrait. Et le DARPA, c'est une manière d'éviter le saupoudrage. C'était dramatique. Tous les trucs d'innovation européens, ça a été un fiasco. Parce qu'on a mis un petit peu partout. C'est pas comme ça qu'on finance les grandes innovations.
L'innovation impose des choix stratégiques majeurs. Les moyens sont toujours limités. Il faut savoir choisir. Et je prends l'exemple de ITER. ITER, la fusion, elle était découverte dans les années 1950. Énormément de petits qu'on appelle tokamaks se sont développés. En fait, on a fait des travaux, des avancées, mais il fallait réunir ces 35 pays pour pouvoir se donner la chance de faire la vraie démonstration de rupture.
Il faut être ambitieux.
Il faut être très ambitieux. Évidemment, il faut aussi être lucide. Oui. Hein, donc, il faut être contrôlé. On n'est pas entre guillemets chevaux fous, mais en même temps, il faut oser.
Alors, il faut oser. J'entends qu'il faut les accompagner et mieux les accompagner. Ces chercheurs qui découvrent, qui ont envie d'innover, pour autant, ont-ils en France les chercheurs cette culture de l'innovation, de monter une start-up ? Par exemple, quand vous allez les voir, Alexia Pérouse, en leur disant « ce que vous faites est très intéressant, il y a moyen de monter une start-up », est-ce que vous êtes toujours accueilli à bras ouverts ou est-ce que parfois on vous regarde avec méfiance en disant « mais c'est pas ça, moi j'ai pas fait des études pour devenir chef d'entreprise, c'est pas ça que je voulais faire ».
Non, moi, je trouve qu'il y a une vraie et vraiment positive évolution depuis le début des années 2000, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus facile que ça n'a été au début des années 2000. Et encore une fois, après, nous, on ne leur dit pas, vous êtes chercheur, vous allez devenir manager de la société. C'est au contraire, autour de ça, on va construire. Donc, du coup, c'est rassurant parce que je trouve qu'en 2019, on a aussi la capacité d'attirer des personnes expérimentées, des managers qui reviennent des États-Unis, etc. Ce qu'on n'avait pas encore à peu près il y a une vingtaine d'années. Donc, aujourd'hui, ça se passe bien parce que le dialogue, il est là. Et puis, encore une fois, nous, on ajuste. Soit, en effet, le chercheur doit mettre un pied dans la boîte à 30-50%, soit, finalement, il va accompagner juste la première année parce qu'après, tout le reste lui échappe et que c'est du développement de produits et que, de toute façon, ce n'est pas ce qui l'intéresse, etc. Donc, après, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Et c'est ça où on peut dire que ce n'est pas une industrie qui est écrite. Il faut savoir s'adapter. Si on a une innovation de rupture, on met les moyens, on y va, on accompagne. Mmh. Mais vraiment, ça a beaucoup changé. Moi, je suis très positive de ce côté-là.
Claire Mathieu, vous qui êtes dans un secteur porteur, hein, des algorithmes, il y en a partout, y compris dans le milieu économique. Si on venait vous voir pour vous proposer de participer à une aventure start-up, vous dites quoi ?
je
vous
dis,
réfléchissez un peu, apparemment.
Je dis d'abord, est-ce que ça sert le bien commun ?
D'accord. Non, mais c'est intéressant, cette réponse, parce qu'effectivement, ça montre qu'on n'a pas envie à tout prix de rentrer dans ce milieu de la concurrence où le seul objectif est de faire de l'argent. Quand on épouse la carrière de chercheur, ce n'est pas forcément le moteur.
Alors, je dois dire que j'ai travaillé pendant de nombreuses années aux États-Unis, donc en informatique. Et quand j'étais aux États-Unis, presque tous mes collègues travaillaient dans une start-up. Soit ils avaient une start-up, soit ils participaient à une start-up. Presque tous. Il y en avait un, le plus riche, je crois. Il m'a dit, moi, j'ai créé 19 startups dans ma vie. Il y en a 18 qui ont fait faillite.
Oui, comme quoi il faut persévérer. En tout cas.
Et alors en France, ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Cela dit, je dois dire qu'actuellement, la situation dans la recherche publique, elle est assez compliquée. Il y a des gens qui s'en vont, pas forcément par choix, en informatique, qui vont travailler dans le privé et qui découvrent que ça leur plaît. Et après, même s'ils reviennent, ils gardent un désir d'innover. Mmh. Voilà. Et puis je vois aussi que, donc moi j'ai plutôt parlé à mes collègues sur des questions d'algorithmes pour l'administration publique, Parcoursup ou d'autres problèmes potentiels. Et j'observe qu'il y a un immense désir de faire quelque chose. Les chercheurs en recherche fondamentale en algorithmique ou en recherche opérationnelle, mm-hmm. il y en a énormément qui seraient prêts à passer du temps pour aider à mettre en place la République numérique.
Mm-hmm. La frontière science appliquée, science fondamentale, ou recherche appliquée, recherche fondamentale, ça devient plus flou, ça évolue de quelle manière? Oui, Philippe Aguillon.
On sait que, c'est pas linéaire. On sait que, on peut avoir des idées à partir de la recherche appliquée. On sait que ça marche pas linéairement. Mais il y a quand même, c'est quand même utile de partir. Alors c'est vrai que souvent les économistes on les critique pour ça, de partir de schémas simplifiés, trop simplifiés. Mm-hmm. Mais il y a quand même l'idée qu'on part d'une idée. Alors l'idée peut émerger d'une expérience. Et puis l'idée, elle donne une autre idée, qui donne une autre idée. Et puis après, on arrive ou on n'arrive pas vers quelque chose qui a une application, d'accord, et qui est commercialisable ou pas commercialisable. Et c'est évident quand on est à un stade, par exemple d'un théorème, ou un stade, disons, très préliminaire, où c'est important d'avoir d'abord la liberté, c'est-à-dire j'ai le droit de chercher sur ce que je veux. C'est très important parce que peut-être je commence une idée, peut-être que ça me donne une autre idée, peut-être que Claire va reprendre mon idée et continuer. Donc d'avoir à la fois la liberté et openness, c'est très important à ce stade-là. Ça serait dramatique d'avoir à breveter des théorèmes, par exemple. Vous voyez, ça bloquerait tout. Il y a le tragedy, donc ça c'est la première. Mais par contre, effectivement, quand on arrive plus près du but, quoi, de la commercialisation, c'est peut-être important de focaliser la recherche et on se soucie davantage de l'expropriation. Donc le brevet devient important. Donc on voit quand même qu'on ne gouverne pas la recherche fondamentale exactement de la même manière dont on gouverne les stades les plus ultimes de la recherche. Ouais. Alors tout ça, évidemment, est beaucoup plus complexe que ce que je raconte. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'on a besoin à la fois d'entreprises privées qui font de la R&D chez eux, mais on a besoin aussi d'institutions non-profit, comme les universités ou les research labs, pour être quand même là où se fait essentiellement la recherche fondamentale. Ouais. Et là, évidemment, le financement ne peut venir que de l'État, ou de mécènes, ou les universités elles-mêmes, ou d'endowments, parce que, par nature, parce que sinon on ne peut pas faire de la recherche privée. C'est pour ça, aux États-Unis, ils ont constitué ces grandes universités avec ces endowments, l'État a mis de l'argent, et au début, les mécènes, d'ailleurs, donnaient surtout de l'argent aux États-Unis à la constitution des universités. Et puis, au cours du temps, le mécénat aux États-Unis s'est déplacé davantage vers la TOF technology, vers le passage de la recherche fondamentale à la recherche publique. Mais nous avons déjà une recherche fondamentale sous-financée, parce que typiquement, la recherche fondamentale... Et le grand drame chez nous, c'est que les politiciens, la plupart, très peu ont été à l'université. Ouais. Vous voyez, ils sont des énarques, ou ils sont, je ne critique personne, ils sont passés par Polytech ou l'ENA, sans passer beaucoup par l'université, et ils pensent qu'un peu l'université, on est un peu des gauchos mal habillés, moi je ne suis pas très bien habillé, tout ça. Ouais. C'est pas des gens très recommandables, il vaut mieux s'entendre avec des gens comme nous, qui avons fait aussi que les grandes écoles, et pas l'université. Et les mécènes sont aussi comme ça, les grands mécènes, vous voyez. Ouais. Et donc on est un peu dans un cercle vicieux de gens qui ont une certaine méfiance à l'égard de l'université, qui pensent que l'innovation, on tape dans le dos de Thalès ou on tape dans le dos de quelques grandes boîtes, et voilà, on fait une politique d'innovation. C'est totalement faux, c'est pas comme ça qu'on fait une politique d'innovation. On ne fait pas la Silicon Valley sans Stanford à côté. Ouais. On ne fait pas la route 128 sans avoir des matières à côté. Mais, et ça, c'est un des grands drames de notre
pays. Alors c'est ça, c'est un grand drame de notre pays et c'est un discours qu'on entend. Alors vous le faites particulièrement bien, mais c'est un discours qu'on entend régulièrement. Comment ça se fait que ça ne percole pas et que les politiques
n'ont pas intégré ça? Mais parce qu'ils n'ont pas été à l'université, ils ne savent pas ce que c'est qu'une université. Il y a très peu qui ont été.
Ouais, ouais.
Ah, oui, très peu de gens qui ont joué de ma part.
Bernard Bigot.
Je voulais souligner que l'expérience qui est la mienne, c'est la recherche à l'innovation et évidemment le succès commercial, c'est une chaîne. Mm-hmm. Et c'est des métiers différents. Ouais. Ce n'est pas les mêmes. Il faut constituer une équipe. Et à mon avis... La rupture culturelle qui est la nôtre, c'est justement cette idée d'encourager les gens à accepter de rentrer dans une équipe. Le chercheur, qui est un chercheur, je dirais, fondamental, qui s'intéresse en fait à à un système ou un sous-système très précis. Voilà, il n'a pas forcément le goût d'intégrer cela dans un système plus complexe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser ce dialogue entre les différentes compétences qui sont nécessaires pour tenir le cycle. Et je pense qu'un des déficits en France, c'est que les responsables institutionnels n'encouragent pas assez les gens à rester dans leur métier, mais à accepter de jouer dans, je dirais, une équipe plus large et plus forte. Moi, c'est ce que je vois, alors, ce que je compare avec les systèmes. Hein. Le grand avantage qui est aujourd'hui le mien, c'est que je regarde comment fonctionnent à peu près 35 pays du point de vue de la recherche. Si et cette culture, qui est celle de ce que j'appelle l'équipe, est beaucoup plus développée, par exemple, aux États-Unis, où on accepte de passer la main. Voilà. Et sans pour ça avoir le sentiment d'être spolié ni quoi que ce soit, on sera respecté dans ce que l'on a été capable de faire. Oui. Voilà. Je pense que c'est un des éléments majeurs qui pourrait permettre que l'investissement non négligeable, cependant, on peut toujours penser qu'il n'y a jamais assez du point de vue effectivement, de ressources destinées à la recherche, il soit mieux valorisé.
C'est intéressant la comparaison entre les 35 pays qui collaborent autour de ce projet ITER. C'est sûr que des différences culturelles ou organisationnelles, vous devez être confrontés, et dans bien des domaines, notamment en France, même si c'est en France qu'on a choisi de construire ce prototype d'ITER, en France, ça a été contesté. Hein. Certains n'y croyaient pas, on dit qu'on allait dépenser beaucoup d'argent. Est-ce que ça a fait l'objet des mêmes débats dans les autres pays partenaires, ou est-ce que la France était finalement le plus remuant ?
Alors, beaucoup des pays qui sont associés à ITER savent très bien qu'ils sont dans une dépendance énergétique majeure, qui ne peut que s'accroître et s'intensifier. Bon, la France en a fait l'expérience. La France disposait de ressources énergétiques abondantes. Voilà, aujourd'hui, on est plutôt dans la logique de la dépendance. L'Europe, aujourd'hui, est dans une logique de dépendance extrêmement forte et accrue. Donc, il y a un certain nombre de pays, par exemple le Japon, par exemple la Corée, par exemple la Chine, par exemple l'Inde, savent que leur équation énergétique, elle n'est pas tenable dans ce qui est aujourd'hui. Donc, il y a un consensus beaucoup plus fort sur la nécessité d'une innovation. Moi, je suis frappé par le fait que, par exemple, je reviens de Chine, le président Xi Jinping, lui-même, demande chaque année à avoir un rapport sur les progrès accomplis par la fusion, et notamment de ITER, et il explique lui-même à son gouvernement, effectivement, les limites ou les difficultés qui sont les nôtres. Je n'ai pas vu dans notre pays pareil enthousiasme.
C'est vous qui lui expliquez directement au président chinois ?
Oui. Il demande à ce que...
Est-ce que vous avez le sentiment que la culture de ce qu'est la recherche est plus ancrée chez ces dirigeants politiques-là ?
Écoutez, la Chine vient de fêter les 70 ans de la création de la République populaire. Un des sujets de la réunion à laquelle j'étais, c'était à quoi tient l'évolution qu'a connu la Chine. Et c'est essentiellement celui de cet esprit d'innovation qui préside. Et ce qui est assez frappant, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais l'essentiel des grands responsables chinois étaient tous des ingénieurs, des gens préparés à comprendre ce que sont les enjeux de l'investissement de l'innovation. Ils ont fait surtout l'investissement de la recherche, et comme vous le savez, ils ont plutôt, je dirais, bénéficié de l'innovation des autres. Mais ils sont aujourd'hui conscients qu'ils fassent un pas supplémentaire. Et je pense que c'est ça. Pour moi, l'innovation, c'est d'abord une culture, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui, lorsqu'une opportunité se présente, on sait la saisir et on réunit tous les moyens pour que cette opportunité se transforme en donc, réussite.
Philippe Aguillon, je crois que vous voulez ajouter quelque chose. Non, je vous voyais...
Non, je me dis sur la Chine, il y a une question qui se pose. Alors là, je suis vraiment... C'est vrai que la Chine met d'énormes moyens pour arriver à la pointe, quoi, pour rattraper la frontière technologique. Et la question, c'est de savoir, est-ce que sans liberté, ou avec une liberté très limitée, on peut être pleinement un pays d'innovation à la frontière ? Voilà, c'est une question qui est ouverte, je veux dire. Il y a des gens qui pensent que c'est pas grave, que finalement, de toute façon, ils peuvent faire venir des gens qui vivent dans des pays libres et free-rider, comme on dit en anglais, de profiter de ces... qu'ils sont libres ailleurs et les faire venir chez eux. C'est toute la question. Ils peuvent certainement remplir des objectifs. Je sais où aller.
Ça, pour ça, c'est bien. Mais est-ce qu'un pays où il y a le face recognition et très peu de liberté, et de moins en moins, parce que Xi Jinping, ça ne va quand même pas dans la direction de davantage de liberté, est-ce que c'est un pays qui peut vraiment être le pays qui va faire la nouvelle grande innovation majeure, ou est-ce que c'est un pays qui va toujours dire « je vais adapter » ou « je vais faire d'innovation incrémentale, peut-être la faire à grande échelle ». Mais voilà. Alors peut-être DARPA, ça, ils peuvent faire, parce qu'on sait où on va. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire l'innovation cunienne, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment la faire dans un système avec face recognition?
Alors, Bernard Bigot, vous répondez rapidement. Ensuite, on passe à la table.
C'est très intéressant ce que vous dites, parce que précisément, c'est la question qui s'est posée là, au cours des dernières semaines, etc. C'est est-ce que nous allons savoir développer une recherche véritablement innovante sans liberté? Voilà. Donc, ils ont conscience que leur système est aujourd'hui contraint. Est-ce qu'il faut qu'ils donnent une liberté beaucoup plus grande aux chercheurs s'ils veulent avoir l'espoir de rentrer dans une compétition, pour faire simple, avec les États-Unis? Ils ont conscience de cette limite-là.
Allez, on prend des questions dans la salle. Je vois une main qui se lève. Je vais vous apporter le micro. Je vous propose que, pour conclure, chacun en fait formule une réponse à cette question qui est assez vertigineuse. Alors, comment faudrait-il faire organiser la recherche pour favoriser l'innovation avec cette petite contrainte qu'il nous reste 5 minutes, que 3 d'entre vous doivent ensuite prendre un train. Alors je vous laisse Alexia Pérouse et puis voilà, chacun une minute sur comment faudrait-il organiser la recherche pour favoriser l'innovation. Alexia Pérouse.
En une minute. Non, bah moi je vais revenir sur le credo. Je pense qu'en effet, il faut décloisonner et vraiment allier justement toutes les expertises et les équipes. Je pense qu'on a la capacité de le faire. Je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de l'ambition, parce que je veux juste revenir sur quelque chose. Quand on rentre dans une start-up, ce n'est pas faire de l'argent. Quand on rentre dans une start-up, en tout cas dans le secteur de santé, c'est pour amener quelque chose au patient, que ce soit quelque chose de thérapeutique ou diagnostique. C'est vraiment le patient que l'on vise, mais c'est un ensemble. Il faut absolument arriver à faire un écosystème vertueux, ce qu'on n'est pas arrivé à faire pour l'instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où on prend des risques ambitieux sur une start-up, oui, il faut qu'elle réussisse, oui, il faut que le retour soit... Ben pour nous, puisque c'est nous qui avons investi, pour nous permettre de refaire d'autres innovations, etc. Donc la nécessité d'un cercle vertueux du financement de la croissance de nos entreprises et de notre recherche est indispensable pour alimenter les innovations à venir. Sinon, encore une fois, elles nous échappent et c'est dommage.
Claire Mathieu.
Je pense qu'il ne faut surtout pas dire aux chercheurs « il faut innover ». Parce que ceux qui ne veulent pas innover doivent être libres de continuer à faire de la recherche fondamentale et rien que ça. Exactement. Je pense qu'il y a suffisamment de chercheurs qui ont un désir de participer à l'innovation, qu'il n'y a pas besoin de chercher au-delà de ça. Et pour cela, il faut les aider. Et ce qui manque actuellement, ce sont des ponts qui permettent de se connecter au vecteur de l'innovation.
Bernard Bigot.
Disait madame. Il y a les comités d'experts, donc des consensus, des communautés, etc. Il faut que les responsables au plus haut niveau, c'est-à-dire ceux qui sont en capacité de prendre des décisions majeures, ils acceptent que sur 10 décisions qu'ils prennent, il y en a une qui soit folle. Il y en a une qui soit hors the box. Il y en a une qui soit complètement futuriste. Ça va échouer une fois sur 10, mais celle qui réussira, elle vaudra largement le risque qu'on a pris. C'est ce que j'ai pu constater dans mon existence, c'est qu'il faut, au plus haut niveau, lorsque quelqu'un vient vous voir, a une idée tout à fait novatrice, bien sûr, vous ne donnez pas cela à quelqu'un qui est incohérent du point de vue fondamentaux scientifiques, etc. Mais lorsqu'il y a les fondamentaux, lorsqu'il a fait la démonstration de sa compétence de fond, allez-y. Et à ce moment-là, il ne faut pas dire allez-y le premier jour, il faut dire allez-y tous les jours, c'est-à-dire le soutenir jusqu'au bout.
Philippe Aguillon.
Oui, bon, très, très brièvement, je pense qu'en France, on sous-finance la recherche fondamentale. L'ANR, je crois que le budget, c'est 800 millions contre 3 milliards pour l'équivalent allemand, donc on est très loin. L'ANR est sous-financée, ce qui fait que beaucoup de gens très bons ne veulent même pas perdre de temps pour candidater à l'ANR. Elle est mal gouvernée, donc je pense qu'on peut vraiment améliorer à la fois le financement et la gouvernance de l'ANR.
Je pense qu'il faut vraiment pousser pour des grandes universités qui soient les mieux classées, dans le top 50. Je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas poussé davantage pour que Polytechnique et Orsay soient ensemble. Moi, j'étais dans le jury IDEX et j'ai beaucoup poussé pour ça. Je trouve que c'est très triste qu'on n'ait pas poussé davantage, qu'on ait laissé la logique de grand corps et la logique corporatiste prévaloir pour empêcher que Polytechnique et Orsay soient ensemble. Je pense qu'il faut rapprocher les grandes écoles des universités et créer des grandes universités, comme vous avez aux États-Unis ou ailleurs. Là, je pense que c'est important. Donc, recherche en DAP plus financée et mieux gouvernée. Deuxièmement, DARPA, on parlait DARPA, vraiment créer comme ça que les Allemands créent une DARPA, ben faisons-nous une aussi et essayons d'en faire une franco-allemande et européenne avec quelques pays en sortant de la logique du juste retour et du veto avec directement les budgets des pays qui participent. Et puis, je crois que le mécénat, il faut l'encourager. Nous, le mécénat chez nous ne va pas beaucoup à la recherche. Alors qu'il va beaucoup plus à la recherche dans d'autres pays. Je crois beaucoup aux incitations fiscales. Moi, j'ai poussé beaucoup pour la flat tax et j'étais pas un grand partisan de l'ISF, tout le monde le sait, mais c'est vrai qu'il y a eu un effet pervers de la réduction de l'ISF et de sa concentration sur l'immobilier, c'est-à-dire que le mécénat a été réduit. Donc là, à mon avis, il faut corriger ça et il faut introduire de vraies incitations fiscales au mécénat et pour également l'orienter davantage vers la recherche et l'innovation.
On rentre pile à l'heure en gare. Merci à tous les quatre. Merci pour vos questions. Très belle soirée à vous.